rêvé à 14-15 ans d'être une vraie enquêtrice, de pouvoir entrer dans les coulisses d'un commissariat, là où il se passe vraiment quelque chose, là où on peut rencontrer des vrais bandits. Qui n'a pas joué à se faire peur en côtoyant le crime ? Loin du club des 5 ou du clan des 7 de notre enfance qui fonctionne autour d'un groupe, loin aussi des aventures d'Alice de Caroline Quine, loin aussi d'Enola Holmes enquêtant dans l'Angleterre victorienne, je vous invite aujourd'hui à partir à la rencontre d'une jeune et fougueuse héroïne qui n'a pas froid aux yeux. Alinéa. Alinéa qui va partir tambour battant dans une nouvelle enquête malgré les interdictions et les dangers encourus à résoudre l'affaire Stéphanie. Sa créatrice a déjà une longue expérience en écriture, même si ses romans sont édités depuis peu de temps. Bonjour Isabelle Lavarec.
Bonjour Nathalie.
Isabelle, d'abord quelques mots sur vous. Je viens de dire que vous écriviez depuis longtemps, mais dans quel domaine et jusqu'où vous êtes arrivée au roman ? Qu'est-ce qui vous a amené au roman ?
Voilà. Alors oui, j'écris depuis très longtemps. J'ai commencé par écrire des articles spécifiques, puisque je suis professeure de sciences de la vie et de la terre, et j'ai été formatrice aussi d'adultes. Par conséquent, souvent, j'écrivais des articles qui étaient très spécifiques, sur les sciences, sur la didactique des sciences, sur la pédagogie, etc.
D'ailleurs, quand on tape votre nom dans Internet, on les trouve encore.
Oui,
ces livres,
il y a encore. Édités. Et puis, évidemment, à un moment donné, j'ai travaillé à l'UFM, j'ai travaillé dans des écoles normales, dans des centres de formation de PEGC, de professeurs de collège, à Tahiti, et puis en UFM à Nice. On m'a demandé, des éditeurs m'ont demandé de faire des livres, d'écrire des livres, de créer. Alors, ça a commencé par Bordas, lorsque j'étais aux Antilles. Ensuite, ça a continué avec Nathan, quand j'étais à Tahiti. Et puis, CED, évidemment, m'a demandé de faire des documents. Les premiers documents ont été publiés, ça fait longtemps, 1995 à peu près. Ensuite, chez Nathan, 1997, ils sont sortis. Et avec CED, je crois que les premiers ont été écrits en 2004-2007 avec les programmes. Et le dernier en 2018.
Et puis maintenant, les vrais livres, je dirais, hein, les livres de littérature, dirons-nous.
Oui, voilà, parce que
ce sont des vrais livres aussi,
parce qu'il y a bien sûr le livre pour le collège, l'élève, mais il y a aussi le livre pour l'enseignant, il y a aussi toutes les structures pédagogiques, etc.
Alors, par vrai livre, je voulais dire passage à la fiction. Parce
voilà.
Que là, tout d'un coup, on passe
voilà,
à la fiction.
Voilà, c'est pas de la fiction. Effectivement, c'est du réel. Et là, oui. Depuis, quand est-ce que j'ai commencé? Le premier livre de la série. J'ai commencé par la série de Alinéa.
Le premier livre sorti, c'était déjà une enquête d'Alinéa.
Voilà, c'était une enquête d'Alinéa.
Qui s'appelait?
Alors, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. C'est une phrase dite par Einstein que j'ai appliquée à mon livre. Et Alinéa est en troisième. Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre ? Bien, c'est tout simplement parce que je m'étais aperçue que les étudiants, quelques-uns, pas tous, mais surtout les collégiens et les lycéens ne faisaient pas tellement de différence de pont. Pardon, ils ne faisaient surtout pas de pont, ils ne construisaient pas des ponts entre la réalité et la fiction.
L'imaginaire, la fiction.
L'imaginaire. Mmh. Et en particulier, ils ne construisaient pas de pont entre le quotidien et ce qu'ils apprenaient en classe.
D'accord.
C'est surtout ça ce qui me gênait. On avait beau leur apprendre tout un tas de choses et ils considéraient que c'était autre chose. Ils construisaient des murs. À l'époque, ils construisaient, je pense que ça doit être toujours vrai, ils construisaient des murs entre ce qu'ils apprennent en classe et la vie dans le quotidien. Or, tout ce qui est dans le quotidien peut s'étudier en quelque sorte par ce qu'on apprend en classe, du moins en science. Mmh. Et en science, j'allais dire, inductive, en particulier dans les sciences expérimentales. Et c'est pour cela que j'ai commencé à écrire des livres policiers.
Et pour créer ce pont, c'est là où vous avez eu envie de créer Alinéa, le personnage Alinéa. Voilà. C'était elle qui allait vous permettre justement de donner du sens à ce pont ?
Absolument. Alinéa grandit avec ses lecteurs. Elle est en troisième, seconde, première.
Comment vous l'avez imaginé, cette jeune fille ? C'est quelqu'un que vous connaissez ? Parce que bon, vous avez croisé des jeunes toute votre vie.
Oui. D'abord, j'ai eu une fille, j'ai des nièces. Je n'ai que des petits... des petits-fils. Une petite fille qui a juste 18 mois, donc...
Vous avez une fille, quand même.
J'ai une fille, oui. J'ai beaucoup... Oui, j'ai
une fille. Elle vous a inspirée ?
Ma fille m'a inspirée, oui, parce qu'elle est très déterminée, elle est très passionnée. Bien sûr. J'ai aussi eu une nièce qui était très déterminée, qui voulait absolument faire des enquêtes. Et je rencontrais beaucoup d'élèves qui faisaient des enquêtes, si bien que lorsque je donnais des exercices scientifiques, je leur demandais toujours de faire une enquête. Vous savez, c'est le fameux os qu'on trouve dans des recherches archéologiques, et on essaye de trouver le dinosaure qui a perdu cet os.
Voilà. Ce qui est marrant, c'est le passage où, enfin la réflexion que vous disiez tout à l'heure, voilà, j'avais une mission de pédagogie, j'écrivais des textes pédagogiques, explicatifs, scientifiques, et puis tout d'un coup j'ai eu besoin de trouver un personnage de roman,
oui,
pour le, pas le vulgariser, parce que c'est pas un joli mot, mais pour le rendre plus concret pour les générations d'ados qui pouvaient lire le livre.
Oui, absolument, absolument. Mais bon, c'est une héroïne. Je voulais montrer, oui, c'est une petite fille fictive, un peu, hein, je l'ai inventée. C'est une héroïne, donc elle a des qualités et des défauts, pour être très humaine. Mais surtout, j'avais envie de montrer à mes étudiants, et aux collégiens, qu'on pouvait faire des ponts, on pouvait les construire. Et ce qu'ils apprenaient à l'école, c'était une façon de leur faire comprendre le monde actuel. Voilà, c'était mon objectif. Et c'est pour cela que j'ai créé cette alinéa.
Et cette alinéa, elle est, moi, je l'ai trouvée attachante. Vous voyez ce que je veux dire, attachante ?
Attachante, oui. Pour sa grand-mère, surtout.
Mais même pour le commissaire de police qu'elle... Elle titille, elle est têtue. Elle est têtue, elle n'est pas très obéissante, non. Elle est intelligente.
Oui.
Elle a l'esprit de déduction, mais elle n'est pas banale non plus.
Oui, c'est une héroïne.
Oui.
Par conséquent, il faut qu'elle dépasse la réalité. Mais c'est vrai aussi qu'elle est humaine.
Tout à fait.
Parce que même quand elle se dispute avec sa grand-mère, quand elle réagit, c'est bien une adolescente. Il ne faut pas oublier qu'elle n'a que 15 ans, là, dans l'affaire Stéphanie. Donc, elle est adolescente. Mais en même temps, 15 ans, on a l'impression de tout savoir.
Bien sûr.
Et par conséquent, comme elle sait tout, elle ne comprend pas qu'on puisse l'empêcher de faire une enquête.
Moi, j'ai commencé donc par le deuxième. Il y en a trois, visiblement un quatrième en préparation.
Oui.
Vous avez une date.
Il est terminé. Il est terminé, mais en fait, c'est toujours pareil. Tous ces livres, je les avais faits il y a très longtemps. Parce que je suis plutôt d'origine scientifique, il me fallait avoir, j'allais dire, ma petite légitimité. Je l'ai eue, d'abord parce que j'ai trouvé un éditeur, Oscar, le premier, ensuite Ex Aequo, mais aussi parce que j'ai gagné des prix, des nouvelles, contes, et même pour le roman, justement.
On en parlera en deuxième partie d'émission.
J'ai eu ma petite médaille. Et à partir de ce moment-là, bon, je les ai repris. Ils étaient dans un tiroir électronique. Je les ai repris, je les ai relus, je les ai transformés, modifiés, etc. Et après, j'ai osé les envoyer.
Alinéa, dans le premier, donc, on la présente. Elle est, oui. Voilà, on prend contact avec le personnage. On parle de son environnement, puisque dans le deuxième, oui, par exemple, on ne parle pas du tout de ses parents. Est-ce qu'on en parle dans le premier ?
Je crois qu'on en parle dans le premier et dans le troisième un peu plus. Pourquoi ses parents ? Ben d'abord, c'est une fille. Oui, c'est cela surtout, le troisième, où elle va montrer, elle va expliquer qu'en fait, son père, elle n'a pas connu. Sa maman a eu une rencontre. A fait une rencontre, et dès qu'il a su qu'elle était enceinte, il est parti.
C'est dans le deuxième, elle parle juste de sa mère, elle va en vacances chez sa mère, point barre.
Voilà.
C'est
la seule mais chose. Mais sa maman a refait sa vie.
D'accord.
Elle a choisi de vivre chez sa grand-mère, d'abord parce que les aléas de la vie, hein, de la maman, et elle s'est habituée à vivre avec sa grand-mère. En plus, elle l'admire, et elle a envie de faire ce que sa grand-mère fait, puisqu'elle est détective privée. Donc, Elle a voulu rester chez sa grand-mère et quand elle va chez sa maman, qui a refait sa vie avec des petits frères et sœurs, des demi-petits frères et sœurs, oui, un peu ça va, puis après elle en a assez. Elle a envie de retrouver sa grand-mère et surtout de retrouver ses enquêtes.
Dans le deuxième, donc à part l'enquête autour de Stéphanie, donc qui est un personnage d'une jeune étudiante la police recherche au début, on ne sait pas qu'elle est morte et que donc Alinéa va trouver. Vous traitez aussi des sujets de société, par exemple dedans vous abordez la phobie scolaire. Dans le premier, si j'ai bien compris, c'est d'ailleurs que le titre. Est un message. Dans le premier, c'est justement les préjugés, notamment avec un amoureux qu'elle a. Oui. Hein. Vous pouvez nous en dire plus sur cet amoureux, sur ses préjugés ?
Oui, alors le premier, c'est effectivement... alors, je dois dire que dans tous les livres, il y a les problèmes qui touchent les adolescents, comme de nombreux livres qui traitent de... qui se situent dans l'adolescence. Mais en plus, il y a toujours une toile de fond qui développe un sujet plus particulièrement. Et là, dans le premier, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Je développe un petit peu l'ostracisme, le rejet de l'autre, parce qu'il fait, il a une culture différente de l'autre. Et là, c'est les gitans. Alors, bien sûr, dans la région, dans le sud de la France, beaucoup. Les gitans, ce sont deux communautés, hein, c'est une communauté qu'on met à part. Mais on s'aperçoit, je me suis beaucoup documentée, et je me suis aperçue qu'en réalité, les gadjés rejettent les gitans, mais les gitans rejettent aussi les gadjés. Et c'est pour ça qu'ils sont amis Kéro, l'ami gitan.
Amoureux un peu
Ils se connaissent depuis l'école maternelle. Et là, ils sont amoureux. Ils se déclarent. Dans le premier tome, ils se déclarent l'amour. Et cet amour va servir de fil rouge tout le long des tomes.
Épisodes.
Pour une raison toute simple, c'est que c'est un amour impossible. Impossible, non pas du côté de Mossa, à la rigueur l'accepterait, mais du côté gitans.
Mossa, faut le dire, c'est la grand-mère.
Oui, c'est la grand-mère. Oui. Mossa, c'est la grand-mère. Oui. Donc, elle est très amoureuse, hein, Alinéa, et puis Kéro aussi. Nous allons voir qu'ils sont amoureux.
Oui, alors, dans la première enquête, ils sont amoureux. Dans la deuxième, il la quitte, mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'on va le savoir dans le troisième ? Pourquoi il la quitte ?
Oui, bien sûr.
On ne le sait pas dans le deuxième. Moi, j'ai lu le deuxième, je ne sais pas.
Oui.
Elle reçoit juste ce mot en disant « c'est fini ». Bon, il y a un autre jeune homme assez marrant d'ailleurs, celui qui a la phobie scolaire. Il est intéressant ce personnage, ouais, très intéressant ce personnage,
oui.
Je trouve très très intéressant, très moderne et très. Il doit parler aux ados, quoi, ce personnage. Et mais Kéro, bon voilà, on l'aborde juste comme.
Oui, mais voilà. Parce que Kéro est absent là. Il est. Vous voulez que je vous dise ou bien vous le saurez avec Alali?
Ah ben non, je l'ai.
D'accord, vous le saurez. Oui. Mais elle a reçu, il a été un peu cavalier quand même. Hein.
Ah oui, la lettre n'est pas très sympa quand même. Un peu,
oui, oui. Comme souvent, les garçons sont avec les filles à cet âge-là, surtout si elles sont amoureuses et s'ils le savent. Donc, il envoie un peu balader. Hein.
Vous en avez prévu beaucoup ?
Là, pour l'instant, il y a l'affaire Emilia qui va arriver. Et puis après, je ne sais pas, j'ai envie d'écrire parce que j'ai commencé quelque chose sur le confinement et où il y aurait comme toile de fond le confinement.
D'accord.
Comment des ados peuvent passer, ont pu passer cette.
Parce qu'il y a un moment où elle va grandir.
Là, oui,
donc elle a commencé
là,
à 14 ans.
Ouais, voilà. Elle est en troisième, seconde, première. Elle grandit avec ses lecteurs. Le quatrième, elle est en première, mais fin d'année.
Vous la voyez adulte ? Vous l'imaginez adulte, cette Alinéa fougueuse
et... Elle va être étudiante, déjà. Mmh. Hein, elle va être étudiante, sûrement en sciences, forcément, parce que ce sera difficile de la mettre en littérature, même si elle sait bien écrire, mais bon. Et je pense qu'elle sera une adulte... c'est une femme. Ce sera, moi, mon avis, une femme à caractère bien trempé.
Bien trempée, oui. C'est déjà une adolescente bien trempée,
oui.
Qui désobéit quand même souvent, parce qu'au début, quand même, personne n'est d'accord pour qu'elle aille enquêter sur cette Stéphanie. Elle rentre en stage de troisième ou seconde avec...
De seconde.
Elle arrive à se faire prendre en stage, grâce aux relations de sa maman, de sa grand-mère, dans un commissariat où, normalement, elle doit trier les papiers et mettre les invitations dans les enveloppes. Elle n'est pas non plus. Et petit à petit, elle s'arrange pour tout savoir de l'enquête et pour presque amener le résultat de l'enquête aux enquêteurs et aux commissaires. Le commissaire est un chouette personnage aussi.
Oui, il est chouette. Oui.
Quand vous commencez le livre, vous savez déjà quelle va être la couleur de votre personnage ou est-ce que vous l'inventez au fur et à mesure de l'avancée du livre ?
Deux choses. J'ai des grandes lignes parce que j'ai pour chaque tome, il y a une histoire qui débute, qui commence et qui finit. Donc j'ai l'histoire dans la tête et puis je fais agir mes personnages. Comment ils agiraient. Et des fois, ils m'entraînent dans des endroits où j'aimerais pas aller. Mais j'y suis. Et j'essaye de trouver ce qui est intéressant, ce qui... Voilà.
Vous recoupez aussi votre vie un peu, parce que bon, vous êtes passionné de théâtre.
Oui.
Et comme par hasard, le père de Xavier, oui. Donc, il est metteur en scène.
Oui. Comme par hasard, vous allez retrouver dans tous mes livres le théâtre. Vous allez retrouver aussi les sciences. Et vous allez retrouver le bateau.
D'accord.
Surtout dans le troisième.
D'accord.
Le bateau, puisque je fais beaucoup de bateaux aussi avec mon époux.
Parce que cette alinéa, elle va remplacer, pour aller jusqu'au bout de son enquête, elle va remplacer Stéphanie, donc, qui est morte,
ouais.
Dans la troupe de théâtre et
ouais.
Reprendre son rôle.
Oui.
Et voir aussi, c'est un moment intéressant du livre d'ailleurs, où tout le monde se positionne, parce que vous avez metteur en scène, vous avez une des filles qu'on croit coupable ou pas. Voilà, tous les personnages se mettent aussi. Il y a la mise en scène du livre et il y a la mise en scène des mêmes personnages en définitive, sauf Stéphanie, dans la pièce de théâtre que remonte le père de Xavier. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, papa, le père de Xavier. Mais c'est amusant de faire ces recoupements-là. Et ça répond à votre passion du théâtre.
Oui.
C'est ça?
Oui. J'aime le théâtre, j'adore le théâtre. Dernièrement, je faisais partie de la troupe de Dob. Dob, c'est un grand humoriste.
D'accord.
Voilà. Mais là, avec tous ces problèmes, bon...
Ouais, c'est pas une période très théâtrale, le Covid.
Non, ça... Et puis, ça lasse. Ça lasse parce que on apprend des textes, on n'arrive pas à les jouer, on sait plus quoi faire.
C'est difficile, la période est vraiment difficile.
Oui, c'est très difficile.
On va quitter Alinéa pour une page musicale que vous avez choisie.
Oui.
Qui est Mozart, mais pas Mozart comme on le connaît. Mozart par Claude Bouling.
Oui.
Alors, dites-moi le titre exactement.
C'est le soupir, le cœur soupire.
Mon cœur soupire.
Oui, parce qu'Alinéa, le cœur d'Alinéa soupire, comme beaucoup d'adolescents.
Eh bien, on écoute Mon cœur soupire et on revient sur le reste de votre œuvre en fin d'émission. À tout de suite. Thank you. Eh bien, Isabelle, on continue notre émission, notre rencontre, et on va laisser Alinéa,
oui,
pour l'instant, hein, en attente de son quatrième, de sa quatrième aventure. Vous viendrez nous la raconter, cette quatrième aventure, j'espère.
Ben oui.
Et il y a d'autres romans que vous écrivez, et des romans pour adultes. Une qui remonte beaucoup quand on fait des recherches sur vous, c'est Lily, la première femme du Vitruve. Et puis un que j'ai vraiment envie de lire, parce que je suis un peu nancéenne, donc Un cadavre à la consigne. Un cadavre à la consigne, c'est quoi comme histoire?
Alors, c'est l'affaire Bessarobo qui s'est passée en 1919-1920. Qui est revue, c'est une affaire Bessarobo qui a été revue par un œil féministe. Alors, je vais vous dire pourquoi je l'ai écrit. C'est parce que je cherchais des thèmes pour adultes. Je m'étais dit, après tout, je peux pas rester toujours que pour ados. Je vais essayer de passer, de trouver un thème pour les adultes. Et puis, je suis tombée sur cette affaire. Et il n'y avait que des hommes qui en parlaient. Et dès le départ, elle était coupable. Vraiment. Donc, je suis allée sur Gallica. J'ai été chercher tous les documents qui se rapportaient à cette affaire. Mmh. Oui. Et je me suis aperçue que là encore, tout le monde, dès le départ, elle était considérée comme coupable. Alors qu'il n'y avait pas de preuves réelles. La seule preuve, c'est qu'elle avait envoyé une malle. La malle où on a trouvé son mari 10 jours après. Donc je me suis dit, de toute façon, à cette époque-là, il faut quand même resituer l'époque, c'est tout de suite après la guerre de 14-18. Donc la mort est banalisée, où on s'aperçoit que les gueules cassées ont beaucoup souffert. Par conséquent, un homme pouvait tuer sa femme devant ses enfants, et ça c'est un fait divers que j'ai pris dans Gallica, les journaux de l'époque. Un homme peut tuer sa femme devant ses enfants et on l'excuse en disant, vous savez, il est malheureux, il n'a pas fait attention, ça, etc., etc. Était excusé. Et elle, cette pauvre femme, alors que son époux a pris tout son héritage, l'a spolié, a spolié ses filles, etc., on considère que c'est elle qui était la criminelle. On considérait que c'était elle. Alors moi, j'ai voulu, donc bien sûr, partir sur les faits, c'était un fait historique, donc je ne pouvais pas...
C'est un roman que vous avez écrit sous forme d'enquête
Sous forme d'enquête, okay, encore, d'accord. Oui. Mais où je détaille beaucoup la vie de la dame, qui m'a beaucoup intéressée, parce qu'elle est née dans les années folles, elle est à la belle époque, elle est née. Et puis elle a vécu en prison pendant les années folles. Et ça m'a permis aussi de décrire les prisons de cette époque-là.
Elle a donc été condamnée.
Elle a été, officiellement, elle a été condamnée. Mais sans preuve.
Sans preuve.
Donc j'ai refait un petit peu, j'ai essayé de ne pas transformer, hein. Et c'est une fiction quand même.
Oui,
hein.
C'est ce que j'allais vous demander. Ouais,
c'est une fiction. L'inspecteur, je l'ai inventé. Pourquoi je l'ai inventé? Parce que je voulais mettre en face le juge qui était contre la femme et lui qui devait être pour. Et ça me permettait aussi de parler des courants de l'époque, des différents courants, parce qu'il y avait beaucoup après une guerre, évidemment, il y a plusieurs courants de l'époque. Et on croit toujours que les années folles, c'était des années extraordinaires pour tout le monde. Eh bien non, les années folles, c'était pas des années extraordinaires. C'était extraordinaire pour ceux qui étaient jeunes, qui avaient de l'argent, qui étaient bien nés, etc. Mais les femmes, c'était pas forcément la belle époque pour les femmes.
Oui, en plus, les femmes avaient pris une certaine forme de pouvoir et d'indépendance pendant la guerre qu'il fallait qu'elles lâchent après.
Absolument,
après.
Et ça a été très dur, tout ça. Voilà. Et donc j'ai voulu, j'ai donné une autre fin, j'ai fait deux fins. La fin normale, après le procès, puisqu'il y a eu un procès, et le roman raconte un peu le procès, et puis après, une autre fin. Alors je ne vous dis pas laquelle.
Non, surtout pas.
Enfin, c'est une féministe qui l'a écrit.
C'est bien, on est des générations comme ça, être encore féministe. Lily, cette femme du Vitruve, alors c'est qui cette autre héroïne? C'est toujours des femmes quand même, hein, vos héroïnes.
Oui,
hein.
Oui. Moi, ce
sont... Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a du transfert, mais enfin quand même.
Surtout dans Lily, il y a beaucoup de transferts dans Lily. Oui, alors Lily, la première femme de Vitruve, Il s'est construit, ce livre s'est construit de façon très amusante. Je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un roman. Au départ, je fais partie d'un atelier d'écriture, parce que comme je vous l'ai dit, d'origine scientifique, j'avais quelques complexes au niveau de l'écriture. Et par conséquent, je suis des cours, d'ailleurs toujours, je vais dans l'atelier d'écriture. Et là, j'avais écrit une nouvelle. Pendant l'été, j'avais écrit une nouvelle où justement il y avait des plongeurs. Ils plongeaient et puis ils remontaient. On les voyait pas remonter. Donc je m'étais dit, tiens, on voit plus que l'ombre. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire partir l'ombre de Lily. Lily perd son ombre.
C'est fou comme, comme postulat.
Oui, mais c'est parce que, je sais pas, j'avais dû un peu trop manger, je sais pas quoi.
bu.
Peut-être aussi. En bateau, on était en bateau à Formentera, je me rappelle très bien, dans une des plages là-bas. C'était magnifique, c'était très beau, un bleu turquoise, etc. Et puis mon imagination est partie toute seule. Donc je me suis dit, j'avais écrit une nouvelle comme ça. Et je l'ai lue en atelier d'écriture. Et tout le monde avait dit, ah non, c'est trop court. Il faut aller encore plus loin. Donc, j'avais fait une novella. Et là, j'avais un petit peu décrit Lily, qui était avec son mari dans un bateau en année sabbatique. Et c'est Lily qui perd son ombre. Et puis, les copines m'ont dit, mais... Et Jason et le mari, qu'est-ce qu'il devient ? Donc, comme on était à l'Hébro, dans le delta de l'Hébro, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très beau. Donc, le delta de l'Hébro, j'ai repris ça comme contexte. Et là, je me suis dit, c'est un lieu très particulier où les ombres quittent les êtres humains, vont se réincarner, vont s'accrocher à quelqu'un d'autre. Et là, ça m'a permis de faire, j'allais dire, des extrapolations un peu philosophiques, un peu érotique, parce que les hommes ont des fantasmes. Et donc, j'ai imaginé que l'ombre de Lily, qui était quelqu'un qui voulait absolument faire l'amour libre, hein, d'ailleurs, elle a un panneau Love and Peace, comme ça, Love and Peace, et je tenais le panneau, Love and Peace, et elle se réincarne, elle va voir le mari, Jason, parce que ça fait très longtemps qu'elle a envie de vraiment, vraiment, vraiment se payer le mari. Elle se réincarne et elle va assouvir tous les certains fantasmes de Jason.
On va avoir envie de découvrir tout le reste de la vie de Lily, mais on va être obligé de laisser toutes ces belles aventurières, ces belles héroïnes que nous propose Isabelle Lavarec. Donc, on a parlé, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle de Le Cadavre à la Consigne.
Elle, c'est Bessarobo, c'est Alexandra.
Voilà, Alexandra, après Lily, et surtout, je vous conseille d'aller découvrir Alinéa. Donc, c'est une littérature pour ados, puisque c'est le portrait d'une ado, mais ça peut tout à fait être lu par des adultes. Moi, je l'ai lu avec énormément de plaisir. Donc, je vous ai présenté aujourd'hui L'affaire Stéphanie, qui est aux éditions Ex Aequo, mais il y en a déjà deux autres dans la suite des Alinéa, et un quatrième bientôt en programmation, en presque impression, on va dire. Et puis, vous aurez l'occasion de venir nous en parler lors de sa sortie, je l'espère.
Merci.
Merci en tout cas beaucoup Isabelle Lavarec. On peut vous retrouver donc toutes les bonnes librairies et puis sur les sites les plus connus, Fnac, De Citre, les mêmes Amazon on va le dire. À très bientôt. Merci Isabelle, merci.
Merci Nathalie.